Alors, dernière heure, je voulais annoncer un petit peu, là, on va s'amuser un peu. Puis en même temps, c'est un sujet sérieux. On va se faire un petit sur le canapé avec Bernard. Et je vais vous demander, est-ce que la pandémie a eu un effet positif sur votre vie sexuelle? Ben oui, il y a une raison pour parler de ça. Ben, il y a toujours une raison, une bonne raison pour parler de ça, honnêtement. Mais là, je suis curieux. On va faire un petit bout avec la sexologue Sylvie Lavallée, puis après ça, vous pourrez m'écrire, m'appeler même. Ça vous tente, ben, des fois, c'est plus gênant de se parler que d'écrire. Fait que vous pouvez déjà commencer à m'écrire au 98985 ou encore Drainville à commercial 985fm.ca. Positif, négatif, on va prendre les deux. On va finir évidemment cette heure avec Valérie Roberts, hein? Toujours le fun. Je vais m'adresser aux moins de 40 ans. Pour vous demander, est-ce que la crèche de Noël est encore importante pour vous, là, au pied de l'arbre de Noël? On lit, là, ce matin, un papier à l'effet que les ventes de crèches sont très fortement à la baisse. Bon, je comprends, mais je suis curieux. Je sais que chez les plus âgés, ça reste encore important, mais chez les plus jeunes, est-ce que c'est quelque chose qui est important ou est-ce que vous n'avez plus, là, la crèche, puis, je veux dire, c'est fini, puis vous vivez bien avec ça? Ou est-ce que ça a encore un sens, une symbolique pour vous? Mais d'abord, comme c'est 14h06, c'est l'heure de Luc Lavoie.
Bonjour Bernard.
Mon cher Luc Lavoie, tu vas nous faire un dernier petit tour de la COVID d'abord.
Je pense que ce sera bref Bernard, je pense que je vais regarder d'abord ici du côté canadien. En Ontario, un record de cas quotidiens pour tout le Canada. C'est quand même assez énorme. Mm-hmm. Puis au Québec, on a eu 1269 cas.
Mais c'est l'Ontario.
C'est l'Ontario, ça frappe, là, Bernard, ça frappe. Enfin, c'est étrange tout ça. Tu sais, la première vague a pas du tout, très peu frappé l'Ontario, beaucoup moins frappé l'Ontario.
Beaucoup moins que son poids démographique, en fait, oui, c'est ça.
Ah, oui. Alors, par ailleurs, du côté des bonnes nouvelles, ben, vous avez le premier ministre Trudeau qui a dit que d'ici septembre, la majorité des Canadiens auraient été vaccinés.
D'ici septembre.
Moi, personnellement, je trouve ça un peu long parce qu'on parle d'environ 50, 52, 53 % des gens.
Mais moi, j'espérais au moins pour les vacances d'été, Luc, ouais, t'sais, pour pas qu'on ait de limitations, de restrictions à cause de la maudite COVID, là.
Mais je veux dire, il parle d'ici le mois de mars d'en vacciner 3 millions. C'est peu, hein. C'est moins que 10 %. C'est pas... J'ai un peu de difficulté à... Ouais. Je sais pas comment ils en arrivent à ça. En tout cas, aujourd'hui, ils ont nommé un général actif de l'armée canadienne, le général Danny Fortin, quelqu'un originaire de Montmagny, un major général. Il va être en charge des opérations logistiques pour l'opération vaccin.
Oui.
Alors, il faut savoir aussi que, je le mentionne en passant, il faut savoir que les militaires ont effectivement une expertise très particulière dans la logistique. Parce que quand tu déploies, mettons, 3200 soldats, comme ils le faisaient en Afghanistan, avec les véhicules, avec la nourriture, avec tout ce qui vient et tout, c'est très compliqué. Alors, ils sont très, très bons dans ça. Ça, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. À l'échelle mondiale... La pandémie du coronavirus a fait 1 433 000 morts. Puis évidemment, c'est toujours aux États-Unis qui est le plus touché. Ils sont rendus à 263 462 décès.
Oui.
Dans plusieurs États américains, le système de santé craque. Il y a vraiment des places là, où ils sont à 100 % et ça n'arrête pas de monter. Et évidemment, je le souligne souvent, mais ça reste pour moi un chiffre, puis on a beaucoup d'auditeurs, je pense, qui sont originaires de la Belgique. On parle du pays où il y a le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 140 décès pour 100 000 habitants. L'Allemagne, qui avait fait bonne figure dans la première vague, est rendue à plus d'un million de cas. L'Inde, ça va pas très bien non plus, mais là, ils viennent de s'associer avec la Russie pour produire une partie de ce fameux vaccin que les Russes disent être bon pour 90 %.
Oui, le Spoutnik.
Le Spoutnik 5, je pense qu'il s'appelle.
Oui.
Bolsonaro, un de nos favoris au Brésil, où ils y ont goûté, puis ça continue. Bolsonaro leur a annoncé, moi, je me ferai pas vacciner. Mais oui, il l'a déjà eu, tu sais. Mon Dieu Seigneur. Alors voilà pour un peu le tour de la COVID. Vraiment, il y a du monde là, qui fait.
Oui.
Enfin.
Oui.
Mais c'est l'Ontario, tu sais, qui a 1855 nouvelles infections. C'est quelque chose d'assez incroyable.
Un nouveau record pour eux, 20 décès. Évidemment, c'est la grande région de Toronto et Toronto qui sont les plus...
Ce qu'ils appellent la région de Peel, qui ouais. s'en va jusqu'un peu vers l'ouest, le Mississauga, tout ça.
Bon, excellent. Enfin, pas les chiffres, là, mais le sujet bien traité, mon cher Luc. On s'en va maintenant aux États-Unis. Trump entr'ouvre de plus en plus la porte à l'arrivée de Biden. On l'écoute, notre Trump favori, hier, hein, c'est ça? Hier, vous allez oui. l'entendre. Écoutez ça.
Don't talk to me that way. Don't talk to... I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. All right, I'm going to go with another question. Go ahead.
So if the Electoral College does elect President-elect Joe Biden, are you not going to leave this building?
Just so you... certainly I will. Certainly I will. And you know that. But... I think that there will be a lot of things happening between now and the 20th of January. A lot of things. Massive fraud has been found. We're like a third world country.
Oui, oui, c'est ça. Alors, il maintient...
Il continue, il persiste.
Il maintient que la fraude est généralisée, mais il reconnaît là, qu'il va quitter. Là.
Ben, ce qu'il a dit très, très clairement hier, c'est si le collège électoral élit... Monsieur Biden, je vais accepter la décision du collège électoral, mais ceci ne voudra pas dire que j'admets avoir perdu.
Oh oui, c'est ça.
C'est quand même quelque chose. Et surtout, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on l'entend qui dit, et il va se passer beaucoup de choses entre maintenant et le 20 janvier. Ouais. Là, évidemment, il fait référence à son histoire qu'il y a eu des fraudes, bon, tout ça. Mais on est en train de voir ailleurs dans le monde c'est quoi qu'il est en train de faire.
Bon, mais c'est ça, là. Il faut en parler, là. Donc, cet assassinat d'un spécialiste du nucléaire iranien. On sait qu'à un moment donné, Trump était sur le point de bombarder l'Iran. À la toute dernière minute, il a changé d'avis. On comprend, là, qu'il avait une sorte d'accord avec Netanyahou, le premier ministre israélien, là. Et puis, bon. Là, il y a cet assassinat, donc, qui s'est produit un peu plus tôt aujourd'hui. Et toi et moi, Luc, qui s'intéressons à ces enjeux-là, tout de suite, on s'est texté et on a convenu que c'était probablement Israël qui était derrière ça.
Ah, oh, ben tout le monde voit ça comme étant Israël maintenant. Hein? Est-ce qu'ils ont agi seuls avec la connivence des Américains? Écoutez, je veux juste souligner, le gars qui a été assassiné s'appelle Mohsen Fakhrizadeh. On le dit, chef du département recherche et innovation au ministère de l'Énergie. Mais la réalité, c'est que dans un discours récent, Netanyahou, le premier ministre d'Israël, l'avait appelé le père de la bombe nucléaire iranienne. Il faut savoir que depuis, surtout en 2010 et 2012, les équipes de je sais pas comment les appeler, là, Bernard.
Les scientifiques?
Non, je parle des gens du Mossad.
Ah, les équipes, c'est des black ops, là. C'est des unités spécialisées dans l'assassinat sélectif. L'assassinat d'État, mon ami.
Voilà. Entre 2010 et 2012, les quatre principaux dirigeants du programme nucléaire ont été assassinés. Tous s'entendent pour dire que c'est Israël. Et là, il y a eu le général Soleimani qui était le chef des forces spéciales de Téhéran.
Oui, des gardiens. Est-ce que c'était. Non, des forces spéciales. Forces spéciales, tu as raison.
Des forces spéciales. Oui, bon, il a été assassiné, lui, à Bagdad par un drone américain.
Oui.
Et là, cet assassinat aujourd'hui de Mohsen Fakhrizadeh, c'était vraiment une affaire incroyable. J'ai vu les images, tout ça.
Mais décris ça, là, oui, parce qu'on les a pas
Il s'en toujours. Vient dans une banlieue de Téhéran, ou c'est plutôt à travers les champs, mais c'est une belle route. Il s'en vient là, et il y a de la sécurité avec lui, et des gardes du corps, et tout ce que tu veux, puis tout à coup, de nulle part, on le sait pas encore, on n'a pas les détails, on a vu des photos de pare-brise remplies de trous de balles, mais...
Mais il y a une voiture qui aurait explosé au départ. Il y aurait une voiture qui aurait explosé.
Oui, hein? Voilà, il y en a une qui a explosé, l'autre s'en venait, et les gardes du corps, c'est ce que je comprends, de ce monsieur, de la cible, se sont déployés puis ont commencé à retourner le feu. Alors, il y a eu pas mal d'échanges de coups de feu. Les images qu'on voit, c'est les débris sur la route. On voit la voiture qui a explosé. Et voilà, je veux dire, l'Iran a été rapide à dire qu'il s'agit d'une attaque terroriste menée par Israël et appuyée par les Américains. Moi, je pense que effectivement, Trump
a probablement donné son accord à Israël.
Donné son accord, les a même peut-être encouragés. Pourquoi? Parce que l'Iran, bon, avait signé un pacte de dénucléarisation avec les grands alliés. Trump s'en est retiré. Netanyahou en faisait une maladie. Il ne faut pas jamais qu'on retourne à cet accord-là. Biden a dit qu'il était plutôt d'accord. Blinken, son nouveau secrétaire d'État, ou qui va être secrétaire d'État le 20 janvier, a dit qu'il était plutôt d'accord de retourner à la filière diplomatique. Alors, ce qu'il est en train de faire, Trump et Israël, c'est de créer une situation où il n'y a pas de place pour la diplomatie. Là,
voilà, c'est ça.
Puis il y a eu Soleimani, puis il y a eu le numéro 2 d'Al-Qaïda qui était en territoire irakien qui a été assassiné aussi. Là, tu as le chef des essais nucléaires, enfin, ils n'ont pas fait d'essais nucléaires, mais du développement de la bombe atomique de l'Iran. C'est une grosse nouvelle vue d'ici, on se dit, non, c'est une très, très grosse nouvelle. Là, tu as cette coalition qui est en train de se créer et qui inclut Israël, Arabie Saoudite, puis tous les pays sunnites.
Oui.
De l'autre côté, tu as Téhéran, l'Iran avec le Pakistan qui est à côté, l'Afghanistan, qui sont en train de créer un autre bloc chiite. Et là, puis évidemment, à peu près 60% de l'Irak, là, qui est aussi chiite. Et là, on commence à voir que la guerre s'active, ça commence à prendre forme, et Netanyahou souhaiterait de tout son cœur pouvoir en découdre avec l'Iran pour leur sacrer une volée. Évidemment, l'armée israélienne est considérablement plus puissante que l'armée iranienne, si ce n'est qu'en termes d'équipement et en termes d'entraînement aussi. Mais s'il y avait une guerre qui prenait là, ça pourrait être assez dévastateur.
Ah non, mais on ne veut pas ça.
N'oublions pas qu'Israël dispose de 100 ogives nucléaires.
Oui, c'est ça.
L'Arabie saoudite, on n'en parle pas beaucoup, mais semble-t-il, sont aussi en train d'en développer. Le Pakistan, l'allié de l'Iran...
Je ne serais pas étonné, moi. Hein? Je n'ai aucune information, évidemment, là-dessus, puis je n'ai rien lu là-dessus, là, même dans les papiers très spécialisés, là, les revues, puis le New York Times et tout ça. Je n'ai pas lu ça nulle part. Mais je ne serais pas étonné d'apprendre qu'au départ de Trump, dans les mois ou peut-être les années suivant son départ, on apprendra qu'il avait collaboré avec l'Arabie saoudite pour accélérer le programme nucléaire saoudien. Parce qu'on sait qu'ils ont été très proches. Trump couche son
ce que tu dis est plein de bon sens. Hein? Moi aussi, je le pense. Je pense que les Américains, sous Trump, ont décidé d'ancrer leur politique autour de l'Arabie saoudite, se veut maintenant le leader du monde sunnite en remplacement de l'Égypte, qui n'avait plus les moyens d'assumer son leadership.
Son gendre joue un rôle important. Ils ont vendu beaucoup d'armes à l'Arabie saoudite du temps de Trump.
Beaucoup. Les Émirats arabes unis, puis
le Qatar
aussi.
Ça,
le Qatar, bon. Ouais. Alors, on est devant quelque chose, là, c'est comme une bombe qui peut exploser n'importe quand. Et je me méfie beaucoup quand Trump dit qu'il va se passer beaucoup de choses d'ici le 20 janvier. Je ne sais pas comment l'état-major des armées réagirait s'il recevait l'ordre d'attaquer à un moment donné.
Moi, je pense qu'ils n'iront pas. J'espère que non.
On serait devant une incroyable crise constitutionnelle si c'était le cas.
Ah.
Parce que le président est effectivement, ce qui n'est pas le cas au Canada du tout, le commandant en chef de l'armée. Et selon la Constitution, l'armée prend ses ordres du président. Si elle décide de plus les prendre parce que les dates ne lui vont pas ou qu'elle n'est pas d'accord avec l'approche, c'est une rébellion qui s'approche d'un coup d'État. Faut pas l'oublier, ça.
Non, c'est ça. Alors, on va espérer que, justement, la hiérarchie militaire américaine sera sage. On l'espère. Bon, Luc, on va se reparler un petit peu plus tard dans l'heure. Je te laisse
on va parler de crèche, je pense.
Oui.
Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça.
C'est vrai? Bon, ben, tu nous diras pourquoi, puis on va prendre des appels. Mais chez les moins de 40 ans, je vous le dis tout de suite, là, je veux savoir, chez les générations plus jeunes, là, la crèche, est-ce que c'est encore important ou franchement, ça n'a aucune importance? En bas de l'arbre de Noël, il y a des cadeaux et rien d'autre. Enfin, je pose la question. On y répondra tout à l'heure. À tout à l'heure, mon cher Luc.
À tantôt.
Alors, gardez bien, là, je vous l'avais annoncé. C'est vendredi, là. OK, on fait ça là, un peu plus léger des fois. D'ailleurs, j'ai une auditrice là, qui me remercie, là, qui a dit c'est très bien, là, ça nous prend un petit peu de sujet là, un peu plus léger les vendredis. Donc, on se fait un petit sur le canapé avec Bernard après la pause et je vais vous demander, vous êtes déjà un certain nombre à m'avoir écrit là, pour me dire dans certains cas, ça va pas du tout, le sexe n'a pas été bon pantoute pendant la COVID. Il y en a qui ont rompu, il y en a que ceux qui sont célibataires disent c'est l'enfer. Mais j'ai des commentaires positifs aussi, il y en a qui se sont retrouvés, surtout avec le retour à l'école, là. Il y en a qui ont retrouvé des moments d'intimité. Je vais vous donner quelques témoignages, mais d'abord on entendra la sexologue Sylvie Lavallée qui va nous raconter un petit peu ce qu'elle entend dans son cabinet là. Puis évidemment, quand t'appelles une psy ou une sexologue, c'est pas parce que ça va bien. parce que tu as besoin d'aide. Fait que Sylvie va nous résumer un petit peu ce qu'elle entend, puis après ça, je vais prendre vos appels 790-9850 ou texto 98985 ou Drainville à commercial 985fm.ca. Est-ce que la pandémie a un effet positif sur votre vie sexuelle?